Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Club des idées du grain. Ce soir, à quoi servent les interviews politiques ? On a frôlé le crime de lèse-majesté. Ni Edoui Plenel, ni Jean-Jacques Bourdin n'avaient mis de cravate dimanche dernier pour interviewer Emmanuel Macron, pour interviewer le président de la République. Manque de respect pour la fonction, ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut qui se serait permis une telle entorse aux convenances. Quelques jours plus tôt, le présentateur du 13h de TF1 interviewait lui aussi le chef de l'État devant beaucoup plus de téléspectateurs que ses confrères de Mediapart et RMC. C'est pourtant l'émission de dimanche dernier qui devrait marquer durablement les esprits tant les codes habituels de l'exercice ont été dynamités. Alors on retiendra la forme, mais que retiendra-t-on sur le fond ? Rien, disent tous ceux nombreux qui n'ont pas apprécié la joute entre le président et les deux journalistes, gâchée selon eux par un trop-plein d'agressivité. Mais que retient-on d'habitude des interviews politiques, si ce n'est avant tout la forme ? Pour une annonce concrète, pour une information consistante, combien de discussions au sortir desquelles on n'a pas appris grand-chose ? Alors à quoi servent les interviews politiques ? C'est la question que nous posons ce soir depuis le bar du Bel Air, qui est presque complet, mais où il reste des places, comme disent les chanteurs un petit peu sur le retour quand ils essaient de remplir leur salle. Voilà, vous pouvez venir hein, si jamais vous êtes dans le coin à Radio France. Et pour discuter ce soir, trois des membres du club. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour Le Média, pour Le 1, pour Là-bas si j'y suis. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, c'est sur France Culture le samedi à 12h45. Vous dirigez également le site AOC Analyse Opinion Critique. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignante à Sciences Po, et puis comme chaque vendredi désormais, un invité du club. Et notre invité ce vendredi, c'est Thierry Herrand. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicant, enseignant à Sciences Po Paris. Vous êtes passé par le SIG, le service d'information du gouvernement. Vous y étiez lorsque un certain nombre de premiers ministres étaient là. On peut les... Non, vous n'y êtes pas passé ?
Si je peux faire une petite clarification. Non, j'ai travaillé au sein du groupe Publicis et j'ai travaillé pour le SIG pendant 6 ans, sous 3 gouvernements, Fillon, Hérault et Valls.
Voilà, précision importante. Alors, je voudrais qu'on commence par un premier tour de table autour de cette interview de dimanche dernier. Emmanuel Macron face à Jean-Jacques Bourdin et à Edoui Plenel. On a beaucoup parlé de rupture. Est-ce que c'est ce que vous avez vu également et entendu les uns et les autres ? Je vais commencer par notre invité avec vous, donc Thierry Herrand. Est-ce que c'est une rupture peut-être à la fois dans la façon de poser des questions, mais aussi peut-être dans la façon d'y répondre ?
Oui, c'est une rupture. Alors, en réfléchissant et en préparant l'émission, je me suis dit quand même qu'il fallait peut-être décadrer un tout petit peu cet entretien. Parce que moi, je trouve qu'on parle beaucoup d'un entretien et d'une interview politique. En réalité, je la qualifierais plutôt de séquence de communication politique très, très contrôlée par l'exécutif. C'est-à-dire, je la vois un peu comme ça. Alors, bien sûr, il y a un exercice journalistique. Mais en réalité, au fond, Emmanuel Macron avait besoin de s'adresser dans la semaine à deux publics. Il avait besoin de s'adresser à un public auquel il ne s'adresse jamais, qui est en gros un public rural, un public plutôt sur des couches populaires, et il a choisi Pernaut. Et au fond, il a choisi aussi de s'adresser à un public qui est plutôt son public, qui sont plutôt des CSP+, hyper informés, très consommateurs de réseaux sociaux.
Oui, mais ça attendait peut-être pas à ce que ça prenne cette forme-là. Il y a quand même par moments où il avait l'air un petit peu décontenancé, non ?
Je crois qu'il s'attendait tout à fait à ce que ça prenne cette forme-là. Je pense que, au contraire, on est face à un. En fait, on a une communication de l'exécutif aujourd'hui qui surjoue la prise de risque. Donc, au fond, on se met dans un système où on donne l'impression qu'au fond, on donne un sentiment de courage, parce que c'était ça l'objectif principal. Hein, c'était quand même de dire, on n'hésite pas à aller au front, on n'hésite pas à monter au créneau sur ces sujets-là. Et donc, de ce point de vue-là, c'est mission accomplie. Je trouve qu'il y a une grande part de mise en scène.
Aller au front, est-ce que c'est une expression qui pourrait caractériser ce qu'a été cette interview, selon vous, Anastasia Colosimo, que ce soit du côté des journalistes ou du côté du président de la République ?
Oui, je pense que c'est difficile de dire que... Bon, déjà, c'est difficile de dire que toute intervention, toute interview du président de la République n'est pas un exercice de communication. C'est évidemment un exercice de communication, ça ne pourrait pas être autre chose. Ce qu'on aimerait, c'est que ça ne se réduise pas seulement à un exercice de communication. Et évidemment, là, tout le monde est un peu allé au front, d'autant que je serais plutôt d'avis de dire que ce n'était pas un exercice facile, ni pour Emmanuel Macron, qui a quand même été mis en difficulté plusieurs fois, qui a été quand même mis en difficulté à la fois par la branche plutôt populiste, plutôt peuple de droite, je dirais, de Bourdin, et l'autre frange un peu plus gauchiste, très de gauche, de Plenel, sachant que par ailleurs, non, Valentin n'est pas heureuse de cette expression, de gauche, de Plenel. Et donc, évidemment, pour Emmanuel Macron, quand même, il se mettait quand même un peu en danger, surtout que c'est un peu Jupiter qui descend de l'Olympe. Là, c'était plus la révérence absolue, etc. On l'a vu dès le début, et d'ailleurs, il pouvait pas imaginer que ça soit autrement, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des échanges assez violents, des interpellations assez violentes, des dénominations assez violentes. La question de Jean-Luc Bourdin sur la puérilité d'Emmanuel Macron, c'était quand même bon. On n'est pas
fallait
très
habitué à ça, fallait hein. oser. Même si ça, on peut rencontrer ce genre de propos dans tout un tas d'éditoriaux, mais entre faire un éditorial et puis voilà, poser la question.
Mais oui, c'était quand même assez surprenant, et je pense que pour Bourdin et pour Plenel, la difficulté était surtout pourquoi est-ce qu'ils allaient au front ? Parce qu'ils allaient au front d'une manière très vindicative contre un président qui est un technocrate très fort et qui répond très bien aux questions. Et d'ailleurs, pour eux, la difficulté, c'était plutôt ça. C'est là où ils ont été mis en difficulté. C'est qu'à mon avis, souvent, ils n'avaient pas vraiment le niveau pour rentrer dans le fond des dossiers.
Avez-vous été surprise, vous, de Lancelin, par la teneur de cette interview ? Et si oui, avez-vous été heureusement surprise ?
Alors, oui. En réalité, je pense qu'effectivement, c'est évidemment un exercice de pure communication. Le président est tout de même déstabilisé par la situation présente, même si l'Élysée le nie et toute la communication gouvernementale. Et il était important, effectivement, pour lui, de ne pas avoir une interview du type Laurent Delahousse, mais d'aller affronter de véritables contradicteurs. Et la force, je trouve, de Bourdin et de Plenel, c'est d'avoir réussi à déborder l'exercice, c'est d'avoir fait preuve d'une pugnacité réelle, pas feinte. En tout cas, pour Jean-Jacques Bourdin, c'était absolument manifeste dès le début. Il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un de courageux dans cette affaire. Bon, Edoui Plenel a un site indépendant. Ce n'est pas le cas de Jean-Jacques Bourdin. Il faut dire d'où on parle.
Il a été très fort.
Et Jean-Jacques Bourdin parle depuis le groupe de Patrick Drahi, depuis RMC, depuis BFM. C'est une star de ces stations. Donc, quand on est une star, on bénéficie d'une certaine protection. Mais c'est une protection, il faut le rappeler, tout à fait relative. Ayons une pensée émue pour Patrick Poivre d'Arvor, qui lui aussi avait traité de petits garçons surexcités Nicolas Sarkozy juste après son élection l'été 2007, et Nicolas Sarkozy a mis un an à le dégager de TF1 par l'entremise de Nonce Paolini, et il l'a fait sauter un an plus tard en juin 2008. Et d'après les dires des gens de TF1 et de Poivre d'Arvor lui-même, c'était véritablement une éviction politique.
Vous avez parlé de pugnacité au de Lancelin. Est-ce que vous avez vu de la pugnacité, vous, dans la façon d'interviewer le chef de l'État, Sylvain Bourmeau ? Moi, j'ai beaucoup vu le terme d'agressivité même excessive, utilisé d'ailleurs par un certain nombre de journalistes et de journalistes politiques. Alors, je ne sais pas s'il y a des rivalités qui peuvent exister dans ce microcosme-là, mais c'est vrai que c'était un terme qui revenait beaucoup.
Ça faisait partie du jeu. Moi, j'ai eu le sentiment... Comment vous dire ça ? Que, une nouvelle fois, le cirque avait monté son chapiteau en ville, mais que pour une fois, c'était un autre cirque. Ce n'était pas les mêmes protagonistes. Mais, donc, on avait le grand cirque de la politique, mais ce n'était pas les mêmes clowns que d'habitude. Au fond, ça peut paraître un peu sévère. Je partage entièrement ce qui a été dit sur le besoin de communication. Je pense que c'est un exercice coproduit et que chacun des participants à estimer tout le bénéfice qu'il pouvait tirer du fait de participer à cette coproduction. Et ça peut être un jeu gagnant-gagnant, comme on dit. Hein. Ça existe, c'est possible. Je crois que ça y ressemblait beaucoup.
Vous trouvez que ça a été le cas, là, parce que Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin s'en sont quand même pris plein la face, si j'ose dire. Enfin, ils ont été très, très critiqués.
Moi, j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup de tweets, par exemple, sur, alors je ne sais pas ce que ça vaut, de gens qui soutiennent Macron, qui trouvaient que, en gros, le chat Macron avait joué avec les souris journalistes. C'était en gros ça, l'image. Et puis d'autres, à l'inverse, qui soutenaient Bourdin ou Plenel ou les deux, qui trouvaient que Macron avait été écrasé par... Bon. Donc je pense que, comme souvent d'ailleurs dans ce genre de choses, chacun sort renforcé dans ses convictions, celles qu'il a amenées avec lui au départ. Mais surtout, on va y venir, on va venir à la question de savoir à quoi ça sert, au fond, ces interviews politiques, surtout quand elles sont coproduites comme ça. Ce qu'on a vu peut-être de très différent par rapport à d'habitude, et ça a des côtés très positifs, c'est qu'on avait des journalistes quand même plus compétents que la plupart du temps, donc capables d'asseoir leurs questions sur des connaissances, tout simplement, sur des informations, sur des faits. Ça, c'est pas négligeable, c'est quand même rare à la télévision dans ce cadre d'interview politique. Mais ils ont succombé à une autre tentation, ces éditorialistes, c'est qu'ils ont, et je comprends très bien, ça m'est arrivé d'écrire des éditoriaux, et vous savez, quand on écrit un éditorial, on ne rêve que d'une chose, c'est de le mettre sous le nez de la personne à qui il s'adresse. Et au fond, ils ont succombé à cette tentation-là, c'est-à-dire, j'écris mon édito et j'ai en face de moi celui à qui j'écris, je vois qu'il va pouvoir le lire puisque je suis en train de le dire à travers la question que je pose.
Et ben justement,
ça, c'est assez pénible.
Justement, Sylvain Bourmoutet, écoutez cette question d'Edoui Plenel. Vous allez nous dire si vous considérez que dans le cas de cette question, c'est presque un éditorial qui est avancé face à Emmanuel Macron.
Le 14 mai 2017, c'était votre discours d'investiture à l'Élysée. C'était un dimanche. J'aurais la volonté constante de réconcilier et de rassembler les Français. Un an a passé. Et dans tous les secteurs, les mécontentements sont là. Il n'y a pas que les cheminots, il y a les retraités, les professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation, la jeunesse de Notre-Dame-des-Landes aux universités, les défenseurs des droits humains, on en reparlera, les associations solidaires des migrants. Tous critiquent votre façon de décider de leur sort, pas seulement ce que vous décidez, mais la façon dont vous le faites, à leur place, autoritaire, verticale. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement, vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler ?
Est-ce une question ou un plaidoyer ?
Ouais, c'est une question à un plaidoyer, ça aurait pu être est-ce une question ou un éditorial, c'est vrai que ça, la forme se rapproche. Est-ce que vous considérez les uns et les autres que cette question-là est une bonne question et que c'est une question qui a sa place dans un entretien présidentiel, Thierry Héran ?
Bien sûr. Enfin, évidemment, c'est le côté effectivement qui crée une vraie rupture par rapport à des interviews quand même auxquelles on est habitué en France, qui sont des interviews extrêmement compassées. Bon, enfin, on en a beaucoup parlé de ça. Je suis d'ailleurs assez surpris parce que au fond, on a quand même un exercice qui est quand même, je le répète, quand même assez sous contrôle. Bien sûr que tout exercice d'interview avec un homme est un. Oui, mais sauf qu'il y a quand même une petite différence. Il y a une petite différence, c'est quand même que le format est imposé par l'Élysée. Deuxièmement, que la réalisation est faite par l'Élysée. Que, en réalité, on va en parler, les résultats de ce genre d'intervention, c'est jamais, jamais les discours qui ont été prononcés. C'est en gros les symboles et les images. Et les images, elles ne sont pas contrôlées par les journalistes. Donc en fait, la réalité, je le répète, c'est que. Ce qui, d'ailleurs, on le voit dans les résultats, hein, ça a été très profitable à l'image d'Emmanuel Macron. Il a été très convaincant. En tout cas, pour l'instant, c'est les sondages qui sortent.
Ces chiffres,
hein. Je les sors d'un sondage, je ne me trompe pas, c'est un sondage IFOP qui a été fait exactement le lendemain de l'intervention. Donc, en plus, il y a une trace de mémoire qui est quand même assez forte. Il a plutôt été jugé convaincant. En revanche, il a convaincu personne. Donc, en fait, c'est bien tout le sujet. C'est-à-dire que c'est d'abord un sujet d'image. Voilà.
L'enfant.
Non, mais écoutez, on va pas se battre sur les chiffres parce que de toute façon, c'est pas mon sujet. Je discute même en soi de la valeur et de l'intérêt des sondages. Mais enfin, bon, j'ai
il a pas été mauvais quand même, Emmanuel
non,
Macron.
Mais enfin,
pour qu'il y ait un bon match, comme on dit,
écoutez,
dans le foot, il faut qu'il y ait de bons adversaires.
Pour moi, on a quand même frôlé l'accident industriel, hein. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement, c'était un plateau extrêmement mouvementé, extrêmement agité. Et on peut considérer quand même que la fonction présidentielle était, un peu atteinte quand même. On n'a pas l'habitude de voir des scènes pareilles. Donc on a frôlé quand même le pugilat à plusieurs moments.
Est-ce que les journalistes sont dans leur rôle justement en bousculant à ce point-là la fonction présidentielle?
Peut-être justement parce que comme on attendait d'eux de servir dans la séquence présidentielle de faire valoir à Macron, ils ont choisi comme ça de se livrer à une espèce de free fight un peu étonnant et bienvenu selon moi. Mais je suis d'accord sur le fond. Moi, ce que j'ai vu passer, c'est surtout que cet entretien et les autres n'avaient eu aucun impact en réalité dans un sens ou dans l'autre sur l'opinion. Et du coup, on peut effectivement s'interroger sur l'intérêt de faire une telle affaire de ce genre de débat, de faire toute une mise en scène, d'aller au palais de Chaillot, de quasiment construire une scène pour le président, alors qu'en fait dans ces moments-là, qu'est-ce qui se dit vraiment, qu'est-ce qui se joue vraiment? Est-ce que vous pourriez autour de cette table me citer un exemple d'interview politique historique, même dans le monde entier, qui ait fait basculer une situation politique?
Ça fait partie des questions que j'allais vous poser. Je ne sais pas si vous voulez y répondre maintenant ou un petit peu plus tard, Sylvain Bourmeau.
Non, je voulais rebondir pour rester sur cet entretien dont nous parlons depuis le début de l'émission. Je pense qu'il remplit un vide ou un dysfonctionnement manifeste de la démocratie française qui ne date pas d'Emmanuel Macron, mais qui s'est aggravé, je dirais, avec l'élection d'Emmanuel Macron et le fait que la situation de l'opposition est pour le moins confuse dans ce pays. Et comme on est dans un régime dans lequel le président de la République ne rend pas de compte, donc dans cette démocratie représentative où il n'y a pas vraiment d'accountability, comme disent les anglo-saxons, on n'est pas habitué à ce que le président de la République puisse être apostrophé. Or, c'est lui qui a les pouvoirs. Et donc, les journalistes ont pris l'habitude, mais ça ne date pas encore une fois de Macron, c'est très ancien, ont pris l'habitude d'apostropher au nom d'eux, au nom de leurs lecteurs, au nom des électeurs, le président. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire, je trouve avec un trait d'humour assez bien vu à l'humoriste de France Inter, Charline Van Hedecker, au lendemain de l'émission, que ça fait bizarre de voir un président de la République donner des leçons de journalisme à deux journalistes, et ça fait bizarre de voir deux journalistes donner des leçons de président de la République à un président de la République. Je pense qu'on est dans un registre. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est une séquence que j'ai trouvée beaucoup plus intéressante en termes d'apostrophe du président de la République qui s'est déroulée cette semaine. C'est quand une démocratie qui fonctionne un peu mieux que la démocratie française, celle de l'Union européenne, permet à un député écologiste belge, Philippe Lamberts, d'apostropher le président de la République française dans un hémicycle au nom d'un mandat qui est le sien, chose qui se produit deux fois par semaine au Parlement britannique, où vous avez un Premier ministre qui doit faire face à ce type d'apostrophe de la part de l'opposition, du chef de l'opposition, en permanence. Ça s'appelle une démocratie. En France, on pratique autre chose. On pratique quelque chose où les journalistes estiment que c'est leur pouvoir. En Angleterre, il y a ça. Et puis, il y a la BBC, où chaque matin, 3, 4, 5 responsables politiques sont là. Ils ne sont pas là dans le studio en général. Ils sont au téléphone. Les journalistes politiques ne les connaissent pas. Il y a très peu de moments passés en commun. Et cette distance permet des questions qui ne sont pas des éditoriaux, qui sont des questions très courtes, très incisives, très factuelles et qui relèvent du très bon journalisme politique. À mon avis, c'est vers cet exemple-là, tant au Parlement que sur les ondes, vers lesquelles nous devrions tendre.
Alors la question de la distance, elle est effectivement essentielle. La question que posait Aude Lancelin, c'est la question qu'on vous a posée pour préparer l'émission, de savoir s'il y avait des interviews qui vous paraissaient particulièrement exemplaires, des interviews politiques dans votre mémoire. Anastasia Colosimo, vous avez pensé à quoi, vous?
En fait, j'ai pensé justement sur le cas français et pour faire un lien avec ce que disait Sylvain Bourmeau, il est évident que l'interview politique en France a un rôle particulier parce que les institutions de la 5e font qu'il y a un besoin pour le président de s'adresser directement au peuple. Et le premier exemple historique qu'on a de ça, c'est évidemment les entretiens de Gaulle par Michel Droit. Et De Gaulle, d'ailleurs, utilise très bien la télévision. Il comprend très vite ce que c'est la télévision. Il comprend très bien que c'est le moyen, en fait, d'entériner la constitution de la Ve République parce que tout d'un coup, il a ce canal extraordinaire qui est qu'il est dans le salon tout d'un coup de tous les Français. Et que donc, il n'y a plus rien entre le président de la République et le peuple. Et donc, la tradition de l'interview politique, à mon avis, en France, elle s'inscrit quand même profondément dans les institutions de la 5e. D'ailleurs, Plenel a voulu remettre en cause à un moment les institutions de la 5e, mais Macron a raison, lui a dit, bon, bah, pour l'instant, la réalité, c'est que c'est notre constitution et qu'elle n'est pas prête de changer, en tout cas, sur le fond et sur les grandes articulations.
Donc, quand vous citez Michel Droit et le général de Gaulle,
Cabache et Mitterrand,
elle
aussi.
Est exemplaire, mais exemplaire, pas forcément comme un exemple à suivre. Mais
vous savez, jusqu'à très récemment, même pendant les conférences de presse, toutes les questions sont préparées, toutes les questions sont relues. Vous notiez tout à l'heure que tout est organisé par l'Élysée. Mais en fait, c'est extrêmement récent qu'on mette le président ou n'importe quelle personne du gouvernement réellement en difficulté dans les médias. Ça arrive quasiment pas. Et surtout, ça n'est pas du tout la tradition.
Et elles sont relues d'ailleurs à tel point que oui. Frédéric Seyss, dans son billet politique cette semaine, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi matin, a exhumé une séquence qui date de 1973 où là, on est dans les coulisses de l'interview, juste avant l'interview du président Georges Pompidou par Jean-Marie Cavada. Écoutez justement cet extrait. Il prépare l'interview à venir.
Je voulais simplement vous avertir par déférence que la formulation de mes questions, si le sens intégral et la chute, de façon à ce que vous soyez bien repéré, reste le même, je les attaquerai parfois différemment, ça dépend pour avoir l'air un peu plus improvisé. Et j'ai une question personnelle à vous poser. Est-ce que vous avez eu connaissance du sondage Sofres sur l'inquiétude des Français?
Oui, ils sont inquiets. Pareil, ils sont inquiets.
Bien. De façon à ne pas vous prendre en traite, mais quand même vous dire que parce je fais mon devoir. La poser,
oui.
Non, je ne veux pas la poser, mais je vais l'inclure dans une question qui concerne allez-vous changer de Premier ministre ?
Voilà, séquence assez extraordinaire hein, donc entre un journaliste et un chef de l'État. Quand on est un communicant et qu'on travaille aussi avec des politiques, ce genre de préparation, ce genre de journalisme, ça doit être du pain béni. C'est-à-dire, c'est ce qu'on attend, non ? D'avoir les questions à l'avance et puis de préparer au point de savoir déjà ce qu'on va répondre. Thierry Herrand.
Non, là, je vais prendre un peu le contre-pied parce que en réalité, non. En réalité, non, parce que ça profite à personne. Et c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a une espèce de... Parce qu'on parle d'entretien politique avec le président de la République. On peut parler d'entretien politique avec des ministres, avec une équipe gouvernementale. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est à la peine dans les entretiens politiques. On voit bien que parce que
il a la peine. En tout cas, il n'est pas absent des entretiens politiques. On entend beaucoup les ministres aujourd'hui.
Et alors, ça, c'est une vraie question. Pourquoi il est aussi présent ? Parce que contrairement un petit peu à ce que vous disiez dans votre introduction, il n'y a pas d'autre moyen de toucher les Français, en réalité, massivement, que de passer par l'entretien politique. Vous allez me dire, mais il y a les réseaux sociaux.
Oui, c'est ce que je vais vous dire.
Vous aviez raison. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que le Premier ministre fait un Facebook Live tous les mardis ? Il a à peu près 40 000 personnes qui le regardent. Je veux dire, ça, malgré tout, l'entretien politique, c'est quelque chose qui permet de toucher une grande masse de gens. Mais la grande différence par rapport à ce que disait Anastasia, par rapport au début de la Ve République, c'est que, en revanche, vous avez maintenant des audiences qui sont très, très fragmentées. Donc, avant, vous étiez capable de toucher 10, 15 millions de personnes. Aujourd'hui, par exemple, Mitterrand chez Mourouzi, voilà une forme de démission politique. C'était « ça nous intéresse, monsieur le Président ». 19 millions de personnes. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc ça, il y a un vrai sujet aussi d'audience.
Mais alors cet exemple, je trouve intéressant. Mitterrand chez Mourouzi, ou Mourouzi chez Mitterrand, je ne sais plus très bien d'ailleurs comment il fallait le dire. Parce que qu'est-ce qu'on retient finalement de ce qu'a été ce moment ? C'était le côté assez novateur là aussi de la façon d'interroger le président de la République. Et on retient deux choses. Le fait que Mourouzi s'est assis sur la table à laquelle était assise François Mitterrand et qu'à un moment donné, il lui dit « est-ce que vous êtes branché ?» Voilà, voilà. Et François Mitterrand lui dit « non, mais on ne dit plus ça, le verlan je connais ». Puis d'ailleurs, on devrait dire « câblé ». Est-ce que ça ne montre pas finalement que ces grandes interviews, à chaque fois, il n'en reste que finalement ce qui est peut-être le plus anecdotique, Sylvain Bourmeau.
Certainement, c'est un bon exemple pour s'en rendre compte. Mais il y a d'autres usages de l'interview politique. Et en l'occurrence, moi je voudrais revenir sur le cas de cet entretien dont on parle, parce que je n'ai pas vu un président à aucun moment en difficulté. Je pense que c'est ce qui était recherché, c'était cette prise de risque dont parlait Thierry Herrand. C'est-à-dire, effectivement, mettre en scène un président qui va au combat. Mais c'est du catch. Tout ça, et il manquait plus que les commentaires. D'ailleurs, on les a eus après, des Roger Couder du journalisme politique, au fond, pour commenter ce catch. Qu'est-ce que cherchait Emmanuel Macron en faisant ce casting ? Jean-Jacques Bourdin d'un côté et Louis Plenel de l'autre. Drôle d'attelage. soit dit en passant. Eh bien, il cherchait, par une sorte d'homologie, dans la mesure où il y a un vide politique de l'opposition, à signifier que l'opposition à Emmanuel Macron, politiquement, se situe d'un côté au Front National, et Jean-Jacques Bourdin, par ses questions sur l'islam, a témoigné d'une proximité à l'égard de certaines idées de ce parti politique, et de l'autre côté, chez Jean-Luc Mélenchon, deux oppositions fort confortables pour Emmanuel Macron, parce que tant qu'il aura face à lui, d'un côté Marine Le Pen, de l'autre, Jean-Luc Mélenchon, il peut rester longtemps au pouvoir. Et c'est, je crois, ce qu'il voulait démontrer par cette émission.
Paul Lancelin.
Non mais pardon, mais Sylvain, mais là on est complètement dans la façade. Vous savez très bien que le site d'Edoui Plenel, Mediapart, ne soutient aucunement Jean-Luc Mélenchon et qu'ils lui sont même relativement hostiles. Et par ailleurs, je vous laisse la responsabilité d'assimiler Jean-Jacques Bourdin aux idées de Marine Le Pen.
J'ai pas assimilé Jean-Jacques Bourdin. J'ai rapproché des questions qu'il a posées sur l'islam du programme du Front National.
Non, oui, non. Mais non, je suis désolée.
Et j'ai été surpris de voir Edoui Plenel ne pas réagir.
C'est
d'ailleurs
votre point de vue. Jean-Jacques Bourdin, pour vous, est xénophobe, apparemment.
Je n'ai pas dit ça.
Je ne sais pas. Vous dites les questions qu'il a posées sur l'islam sont proches du Front National.
J'ai été surpris de voir Edoui Plenel ne pas réagir à ces questions. Voilà.
Passons.
Parce que c'est un homme très courageux, Edoui Plenel, ça doit être pour ça.
On parle de l'interview politique depuis le début, du point de vue des politiques, en fait. Mais dans cette affaire-là, il n'y a pas que le président qui était en train d'essayer de sauver sa peau dans une situation un peu compliquée. Il y a aussi les journalistes qui sont très contestés, qui sont très malmenés, qui sont très critiqués. Et à travers cet exercice-là, il y avait aussi une prophétie. Et à travers, peut-être, effectivement, la pugnacité aux yeux de certains, l'agressivité aux yeux des autres. Il y a une façon pour les journalistes, deux journalistes intelligents en l'occurrence, qui connaissent les enjeux de leur métier, de sauver la dignité de leur métier en montrant qu'ils ne sont pas les carpettes et les passe-plats de la présidence de la République. Simplement, c'est vrai que cet exercice est limité. On le voit d'ailleurs dans nos réactions, puisque chacun a trouvé qu'il y avait c'est un petit peu un match nul, puisque chacun a trouvé que vous trouvez que le président s'en est bien tiré. Moi, très franchement, je pense qu'on a vraiment frôlé l'accident. C'est bien la preuve de l'astérité quand même de l'exercice, qui est totalement. Il y a toute une mythologie chez les journalistes politiques autour de l'interview politique comme un corps à corps avec la bête politique. Souvent, quand les journalistes s'épanchent sur leur vie, sur leur métier. Je voyais récemment, par exemple, Apolline de Malherbe, qui est une des intervieweuses politiques de BFM, qui disait, oui, non, c'est pas un combat de boxe, c'est plutôt une corrida, c'est plutôt une danse. Et à un moment de la danse, on plante des banderilles, etc., machin. Bon, en réalité, voilà.
Mais justement, est-ce que du point de vue des journalistes, une bonne interview politique, ça n'est pas d'abord considéré comme une interview dans laquelle on a posé de bonnes questions, quitte à se soucier peut-être un petit peu moins de la teneur des réponses de Lancelin?
C'est vrai, sans doute. D'ailleurs, ça vous faites penser à l'une des réactions au cours de l'émission sur Twitter, donc celle de Jean-Luc Mélenchon, qui dit c'est le genre d'interview où on n'écoute plus que les questions et pas les réponses. Oui, il y a évidemment une mise en scène de la profession par elle-même dans ce genre d'exercice. Et autant Bourdin que Plenel ont un public, ils doivent être à la hauteur des attentes de ce public, et c'était sans doute pour eux-mêmes un enjeu très important aussi.
Anastasia Colosimo.
Oui, enfin, je ferais quand même une différence entre Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, parce que je trouve que Jean-Jacques Bourdin était plutôt très clair et il était dans son exercice. Enfin, on le connaît bien, Jean-Jacques Bourdin. Et on sait même la manière dont il interroge. Et il y avait quelque chose de très franc, à la fois d'irrévérencieux, mais très franc, et qui ressemblait beaucoup, il me semble en tout cas, à la colère, effectivement, que peut ressentir une partie de la population française, d'incompréhension aussi, même par rapport au personnage qu'est Macron. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus quand même de réserve sur Edoui Plenel, qui est quand même, c'est vraiment un journalisme suspicieux, pénible. Enfin, je trouve qu'il est vraiment en tout point atroce, quoi.
Ah oui, mais l'habiller pour l'hiver, mais pour le printemps. Là.
Non, et donc du coup.
Et Jean-Pierre Pernaut, tiens, pour changer un peu.
Très sympathique, Pernaut. J'adore Jean-Pierre Pernaut. Non, mais donc j'ai trouvé que dans l'exercice, Jean-Jacques Bourdin était vraiment assez exceptionnel et Edoui Plenel égal à lui-même, c'est-à-dire franchement irritant. Néanmoins, je voulais juste rajouter ce point. Ce qui est évident, c'est que ce qu'on retient de ces moments-là, c'est toujours les clashs, c'est toujours les moments malaisants, c'est toujours. Et effectivement, il y a quand même eu 2h30 d'interview. On n'a rien appris d'exceptionnel. Les deux informations qu'on a tirées à la fin, c'était une sorte d'aveu sur le fait que les frappes en Syrie étaient non pas légales mais légitimes et que la Russie était complice et la reprise de la dette de la SNCF par l'État.
Mais qu'est-ce que vous auriez pu apprendre à l'issue de cette interview, Anastasia Colosimo?
Alors, je pense qu'il y a deux
choses.
Qu'est-ce
qui aurait fait que vous auriez pu vous dire, bah voilà, là au moins, j'ai pas perdu mes 2h30 parce que j'en sais plus à l'arrivée qu'au départ.
Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les interviews politiques servent énormément déjà à voir la personne. Et ça, c'est important. On est quand même, on a un président de la République, on a envie de voir qui il est. Et par exemple, l'émission politique de Laurent Wauquiez a fait changer beaucoup l'opinion sur Laurent Wauquiez de pas mal de personnes à droite. Ça, on l'a vu dans les sondages, qui trouvaient qu'il était détestable et qui l'ont trouvé tout d'un coup sympathique. Donc, l'interview politique, c'est aussi un moyen de voir qui est la personne derrière, de voir comment il réagit, quand est-ce qu'il sourit, comment il bouge les mains, enfin, quand même un tas de choses, un tas d'indicateurs sur la personne. Et ensuite, il y a les dossiers sur le fond. Et sur le fond, il est évident que c'est quand même un exercice préparé. Mais il y a toujours un message. Alors, le message avait déjà été celui, en fait, chez Jean-Pierre Pernaut, c'est que Emmanuel Macron ne va pas reculer, il considère que toutes ses réformes sont bonnes, il va continuer les réformes, etc. Il est évident qu'on n'a pas non plus appris des choses extraordinaires.
Je pense qu'il y a... Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des journalistes, on parlait des politiques. Moi, je pense qu'il faut aussi parler de l'audience. Et c'est des gens qui écoutent. D'abord, l'émission Bourdin-Plenel, elle est, en fait, écoutée à peu près par 3,5 millions de personnes. C'est les mêmes. C'est des CSP+, surinformés politiquement, hyper... Enfin, donc, c'est des gens qui n'ont rien à apprendre de cet entretien. Par ailleurs, on est sur des formats. Le format, il dure 2h40.
Mais c'est des gens qui votent beaucoup, quand même.
Oui, c'est
donc,
des gens...
ça non, représente ça, une grosse partie des gens
c'est
qui
vrai.
Votent.
Oui,
même
oui,
si c'est une petite partie de l'électorat potentiel.
Mais on est que sur une partie, enfin, on est quand même que sur une audience qui est déjà, on va dire, cultivée politiquement, si on peut dire ça comme ça. Il y a un deuxième sujet qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on est sur un... Alors que, grosso modo, dans la consommation média aujourd'hui, des formats, on a tendance à réduire plutôt les formats de contenu. Les deux seuls trucs, enfin les deux seuls formats dont on augmente la longueur, c'est les émissions politiques et les blockbusters. C'est quand même assez incroyable finalement. Donc on a aussi une perte d'attention en ligne qui est immédiate en réalité, et donc la mémorisation est très faible. C'est-à-dire vous vous posez la question du fond, mais ce n'est jamais un problème de fond. C'est vraiment un problème de forme. Non mais je suis désolé de le dire, je vous dis pas que ça me plaît. Hein. Mais
la longueur faisait partie de l'exercice. Je vous rappelle qu'à un moment, dès le début, il y a eu cette idée. Bon, si on rentre là-dedans, on en a pour. Et le président de la République répondant, je suis votre homme. C'est-à-dire, il y avait un côté, on achève bien les choses. On est capable de tenir toute la nuit.
C'était la performance.
Pour autant, il y a des sujets qui n'ont pas du tout été évoqués. On n'a pas du tout parlé écologie, par exemple, dans ce débat.
Mais là, le jeu, c'est la performance. Emmanuel Macron a montré qu'il y arrivait. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y arrive.
Parce que le fond, on peut faire l'hypothèse que le fond n'intéresse personne. C'est-à-dire que le fond n'intéressait pas plus le président de la République que les deux journalistes qui l'interrogeaient, que l'audience. Parce que je pense que les gens regardaient pour la raison que Anastasia a soulignée, c'est-à-dire effectivement savoir qui est, on peut le dire comme ça, Emmanuel Macron, c'est-à-dire comment il se comporte, comment il se tient, comment il réagit, comment quelle phrase
qu'il
fait,
s'énerve,
etc. C'est parce que les deux journalistes, paradoxalement, on les connaît mieux. Parce qu'on les voit depuis plus longtemps. Emmanuel Macron est encore quelqu'un qui n'est pas si bien connu que ça des électeurs français. Il a surgi relativement récemment, quand même. Enfin, au regard de la carrière politique habituelle, c'est encore quelqu'un de très neuf.
Aude Lancelin, qu'est-ce que vous avez appris, vous, en regardant cette interview ?
Alors, écoutez, j'ai appris que Emmanuel Macron avait notre président avait une petite tendance à la mythomanie puisqu'il a tout de même été, lors des informations qu'il a données sur la Syrie, il a dit qu'il avait convaincu Trump, il a dit qu'il avait convaincu Ankara. Or, il a été démenti publiquement par tous les chefs, par le chef d'État turc et par Trump lui-même, qui a dit qu'il n'était pas question de s'enliser en Syrie. Donc,
bon, cela dit, un démenti par Trump, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon.
D'accord, mais c'est quand même, ça fait quand même un peu désordre tout ça, si vous voulez, surtout pour un président qui cherche à exister sur la scène internationale. Donc, je me demande si effectivement. Un petit peu emporté par le show, emporté par le spectacle, il n'en est pas venu à des déclarations relativement irresponsables.
Thierry Héran, en termes d'interview et exemplaire, puisqu'on vous a aussi posé la question avant l'émission, vous nous avez parlé d'Elisabeth Martichoux, qui est la journaliste, enfin une des journalistes politiques de RTL, qui fait un entretien tous les matins, et vous avez pensé à un entretien assez récent avec Laurent Berger de la CFDT, hein, c'est
oui.
ça
Il y avait avec Laurent Berger et avec Gérald Darmanin, que j'ai trouvé que c'était une forme d'entretien qui était vraiment intéressante parce que, en fait, et c'est quand même ça un peu l'entretien politique, c'est quand même de détecter des contradictions, de pousser dans les retranchements et d'avoir un droit de suite. Et ça, dans les entretiens, on va dire présidentiels, c'est extrêmement rare qu'on ait ça. En réalité. Donc là, je trouve que là, on est dans une forme qui est quand même plutôt une forme intelligente d'entretien politique. Et alors, pour un communicant, il est vrai que, parce qu'on ne se met pas à la place, on se met pas assez à la place des politiques. Pour les politiques, c'est très compliqué de faire un exercice radiophonique, en réalité, en radio. C'est très compliqué, enfin en télé aussi. Hein. Mais, et là, on a des ministres, notamment, qui sont des ministres techniques, techniciens, qui ne sont pas du tout habitués aux prises de parole. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bétonnent à mort leur discours, parce que si jamais, en plus, ils sont hyper sous contrôle, quand même, beaucoup plus qu'avant, hein, beaucoup plus que sous le quinquennat Hollande, hein, parce qu'en gros, c'est quand même, comme on dit, bride courte un peu quand même, donc ils sont observés. Et deuxièmement, ils ont peur de la sortie de route. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans l'entretien politique, ce qui intéresse tout le monde, c'est la sortie de route, parce que c'est celle-là qui est relayée sur les réseaux sociaux. Donc en fait, toute cette dynamique-là amène... En gros, là aussi, de la langue de bois industrielle, si vous voulez.
Et, mais alors, du coup, pourquoi ils y vont Oui, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ils y vont, finalement? Et pourquoi on les invite aussi à...
Mais pourquoi ils y vont? Parce que c'est le seul moyen de toucher une audience. Parce qu'en réalité, vous n'en avez pas d'autre.
Voilà. Sylvain Bourmeau, pourquoi est-ce qu'on invite autant de politiques dans les matinales radio, sur les chaînes d'infos?
Et surtout, pourquoi on les invite dans les conditions dans lesquelles on les invite? C'est-à-dire dans une convivialité. Parce que ce sont des gens bien élevés, civilisés, on se dit bonjour, il y a un hors antenne qui fait que c'est difficile de poser parfois les questions qu'on aimerait poser, parce qu'il y a des relations hors antenne. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure de la BBC, parce que le dispositif radiophonique d'entretien qui fait que les assistants de l'émission préparent le rendez-vous avec le responsable politique, que celui qui pose les questions, le journaliste politique qui est en studio, souvent, pendant toute sa carrière, aura très peu d'occasions de rencontrer en face à face les responsables politiques qu'il aura eu très souvent l'occasion d'interviewer à la radio. Et donc cette distance lui permet une très grande indépendance dans ses questions. Et il est exactement dans la logique dont on parlait, c'est-à-dire dont vous parliez, de tester la cohérence d'un propos, d'essayer de... Bon, ça me semble très difficile quand il s'agit d'organiser par ailleurs la convivialité. On a quand même une forme de consanguinité entre le monde du journalisme politique et le monde de la politique professionnelle en France qui pose des problèmes et qu'on voit trop bien lors de ces entretiens politiques.
On a beaucoup parlé de disruption à l'occasion des élections l'an dernier, de renouvellement au niveau politique. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un nécessaire peut-être renouvellement dans les pratiques du journalisme politique, Aude Lancelin ?
Si, non, mais là on est d'accord, cet entretien marque quand même une étape. Hein. Je ne pense pas que ça dissuadera.
On verra ce que donneront les autres.
Je ne pense pas que ça dissuadera les Laurent Delahousse et autres de récidiver, parce que c'est leur registre et puis parce que la présidence a besoin de ça. Je reviens juste sur ce que vous disiez, Thierry Héron, tout à l'heure. Vous parliez de Bourdin et des RMC comme s'adressant lui aussi à des CSP+. On est quand même sur un électorat beaucoup plus populaire. Ouais, RMC, entre RMC et Mediapart est un pur player où il faut faire la démarche de s'abonner, où les articles sont extrêmement pointus et techniques. On est quand même sur deux publics.
Bourdin, c'est très très peuple quand même.
Voilà, c'est quand même un...
Mais c'est BFM.
C'est l'audience BFM qui était majoritaire. Et l'audience BFM, elle est très CSP+, grosse consommatrice d'infos, quoi.
Bon, du coup, vous allez continuer à regarder, à écouter des interviews politiques ou vous le faites à petite dose les uns les autres, très brièvement?
Oui, en me cachant.
En vous cachant, parce que vous avez honte, Anastasia Colosimo.
Non, moi je trouve que c'est toujours intéressant, et parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de voir la personne, comment... c'est ça, on vote aussi pour des personnes, on est représenté aussi par des personnes, on a envie de voir comment elles réagissent, comment elles s'énervent, tout est parlant en fait, tout parle. Et même quand ils ne disent rien, ils parlent. Et leur langage corporel ou leurs expressions parlent. Et c'est quand même toujours, toujours intéressant. Mais je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils continuent à être invités au matinal. Parce que si c'était pas intéressant et si les gens n'écoutaient pas, ils seraient plus invités. Donc ça continue quand même à captiver la France, qui est quand même même, rappelons-le, est un des pays les plus politisés, je pense, au monde, et qui a une passion absolue, en plus, y compris pour cette consanguinité entre journalistes et politiciens.
Mais vous aurez prouvé ce soir qu'on peut aussi captiver la France sans politique, mais avec des journalistes, des politologues, des communicants. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Thierry Errand, Aude Lancelin, Anastasia Colosimo et Sylvain Bourmeau. Émission que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Prune Saez, émission réalisée par l'ISCOM, avec à la prise de son Philippe Mercher, Nadège Antonini et Jean-Benoît Tétu.